She believe in shoes and cars, wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like love to start shit. I'm more of the trips to Florida, order the hors d'oeuvres, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy, man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy. I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old wafty, till I got flashed by the paparazzi. Damn, these niggas got me. I hate these niggas more
as
than a Nazi.
I recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know?
Flashing lights.
What do I know?
Flashing lights.
I know it's been a while, sweetheart. We hardly talk. I was doing my thing. I know what was fair, baby. Hey, babe, lately you've been all on my brain. And if somebody would've told me a month ago, frontin' oh, yo, I wouldn't wanna know. If somebody would've told me a year ago, it'd go get this difficult. Feeling like Katrina with no FEMA, like Martin with no Gina, like a flight with no visa, first class with the seat back, I still see ya. In my past, you on the other side of the glass, of my memories museum. I'm just saying, hey Mona Lisa, come home. You know you can't roam
as
without
I
Caesar.
Recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know?
Madame Coco,
oui.
Vous êtes prête pour votre petite rubrique beauté?
Oui, bien sûr. Prête.
Bah alors, on t'écoute.
Bah voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour une coloration maison réussie. Eh ouais. Premièrement, on travaille sa base. Une base saine, c'est la garantie d'une couleur réussie. Alors, on soigne son cuir chevelu et ses longueurs avec un shampoing adapté à sa nature de cheveux, ainsi que des soins une à deux fois par semaine.
Oui, parce qu'il faut pas mettre sa couleur sur les cheveux gras.
Si, ça peut. Faut pas qu'il soit trop propre non plus, mais il faut qu'il soit en bonne santé.
Oui.
Si vos cheveux sont en mauvais état, justement.
Justement, ouais.
Bah alors, on coupe obligatoirement ce qui est sensibilisé avant de se lancer.
D'accord.
Bah oui, sinon ça prendra pas.
Donc en fait, si t'as tout cheveux, tu te rases d'abord.
Oui, si tu veux. Tu te teins le crâne alors.
Ouais,
D'accord. On y va doucement sur la teinte. On l'a choisi deux tons plus clairs que sa couleur naturelle, car on s'estime toujours plus foncé que la réalité. De toute façon, mieux vaut commencer par une teinte douce, parce que si cela ne vous convient pas, il vous sera plus facile de foncer ensuite. On scrute la liste des composants. Si le pack d'une coloration végétale indique qu'elle contient du picramate de sodium, on évite. Ce sel métallique qui intensifie la couleur rouge n'est pas compatible avec toute coloration chimique antérieure. Il fait littéralement fondre les écailles des cheveux.
Et ils sont foutus.
Voilà. Une coloration permanente ou semi-permanente contient du paraphénylène-diamine, ou PPD. Méfiance.
Aussi ?
Oui.
Bah en fait,
cette substance chimique utilisée comme colorant noir est un allergène puissant. Pour éviter toute réaction allergique dangereuse, on fait donc un test 48 heures avant avec une touche de produit colorant posée sur la nuque. Si dans les 2 jours la peau ne réagit pas, on peut y aller.
Dans les 2 jours ?
Oui. Normalement, il faut attendre 2 jours pour voir si la peau réagit.
Et si tu as acheté le produit ?
Ah bah, tu te débrouilles.
Ah bah d'accord, t'es pas remboursé.
Voilà. Ah bah non.
Puisque t'as essayé sur ta peau.
Ouais. Tant pis pour toi.
Voilà.
Alors, comment faire grimper notre sex appeal ? On passe au roux, c'est le nouveau blond.
Eh ben, ouais. Ça tombe bien.
Voilà, t'as vu ? t'es plein dedans.
Ah ouais, je suis en plein dedans.
Vous êtes mat de peau, les yeux marrons ? Choisissez un roux acajou, aussi flamboyant que le pelage d'un setter irlandais. Vous avez la peau pâle et les yeux clairs. Un blond vénitien cuivré à la Rita Hayworth vous ira à merveille.
Bah c'est le cas.
Si vous avez peur de vous lancer, offrez-vous un galop d'essai avec un soin nuanceur cuivré qui tient jusqu'à 3 à 5 shampoings.
D'accord.
Comme ça,
on n'a pas besoin de retourner chez le coiffeur.
Si ça ne vous plaît pas, ça part rapidement. On sait qu'avec le temps, la peau pâlit et les teintes foncées durcissent les traits. Résultat, si on est brune, mieux vaut passer à un châtain clair plus doux. En revanche, on évite de choisir les blonds trop clairs, pensant résoudre le problème des repousses. On se rabat plutôt sur un blond avec des reflets beige doré, beaucoup plus flatteur.
Beige doré ?
Oui, beige doré. Vous avez les cheveux courts ? Un pack suffit. On peut utiliser la moitié et on referme bien pour la prochaine fois. Cheveux longs et épais ? On prévoit 2 packs pour que la fibre soit bien enrobée de produits et on suit bien le timing de la notice. On décompte les minutes de pause une fois l'application finie.
Donc en fait, plus tu as des longs cheveux, plus ils sont épais, plus tu es mal barré.
Plus il te faut
de matière.
Pour que la couleur prenne bien, si c'est une colo chimique, on se lave les cheveux 2 jours avant pour laisser le temps au sébum de se reformer et protéger le cuir chevelu. Si c'est une coloration végétale, on se les lave le jour même. On n'oublie pas aussi de se protéger. Un vieux t-shirt, serviette sombre pour les éventuelles taches, pince et vieille brosse à dents pour bien cibler les bordures et l'arrière de la tête.
Vieille brosse à dents ?
Bah oui.
Ah oui.
Bah oui, c'est pratique comme ça. Tu fais bien
c'est là que tu
tout le bord.
Et tu te laves avec.
Ah bah oui, faut pas mélanger les deux. Hein.
Dis donc, tu t'es même coloré les dents, toi.
Pour protéger sa peau des débordements, on badigeonne les lisières des cheveux autour du visage avec une crème grasse.
Voyez, ce qu'on fait jamais.
Voilà, genre la petite boîte bleue, là. Je vais pas dire le nom, mais...
La vaseline.
Aussi.
Bah non, mais ça marche pour tout.
Si, ça marche aussi.
Ouais.
Astuce. Pour les gratouillis. Vous savez, des fois, ça gratouille quand on se le produit. Ils sont souvent dus aux pigments. On masse le cuir chevelu avec 2 cuillères à soupe de gros sel dilué dans un petit bol d'eau et on rince juste avant de passer un soin. Juste avant de faire le soin. En fait, tu rinces ta teinture.
Ouais.
Tu te mets ce petit mélange de gros sel.
D'accord.
Tu rinces et après, tu fais le soin.
Oui, mais si ça te gratte pendant que tu as le truc sur la tête.
Bah t'attends. Hein.
D'accord.
Bah oui. Le sel va absorber les résidus de chimie comme un buvard.
D'accord.
Voilà.
Oui, mais c'est peut-être un peu mal barré, ça a peut-être été déjà absorbé, non?
Non, il reste toujours dans un petit peu, tu vois.
D'accord, comme donc ça, en fait, oui, il reste toujours
un petit peu. Tu enlèves bien tout et après ça ne te gratouille plus.
D'accord.
Walou.
Et puis ça enlève ta coloration. Non, mais sans rire, il y a une dame une fois qui a fait sa coloration, elle s'est mise dans son bain et elle était enceinte. Et en fait, les trucs toxiques apparemment fait qu'elle s'est... Elle a fait un malaise et elle s'est noyée dans son bain en étant enceinte.
On dit toujours que étant enceinte, il vaut mieux éviter les teintures.
Ouais, vaut mieux éviter les teintures. Parce que tu es plus sensible aux réactions.
Alors, pour corriger une teinte trop foncée, On masse sur les cheveux pré-séchés de l'huile bien grasse, type olive, ricin, coco ou tournesol, qu'on laisse poser sous une charlotte pendant une nuit. Ouais, c'était vachement glamour. Ça.
Les lipides. Et tu dégoulines de noix après.
Voilà, bien grasse. Les lipides vont expulser les pigments artificiels.
Donc logiquement, ça retire ou ça atténue?
Ça va les retirer.
Ça les retire,
ouais. Parce que ça expulse les pigments artificiels.
D'accord.
Ou alors, on les shampooine chaque jour durant une semaine avec un shampoing hydratant suivi d'un masque pour faire glisser les pigments. Oui.
Donc en fait, les pigments, ils sont juste posés sur ton cheveu. Mmh. Ils ne sont pas à l'intérieur. Enfin, si.
Ouais, bah si, en fait. Mais quand tu shampooines, en fait, ça ouvre les écailles du cheveu.
D'accord.
Voilà.
Compliqué.
Donc,
les cheveux.
Je vais laisser partir le colorant.
Bon, bah, vous colorez pas les cheveux, en fait.
Alors, par contre, si vous voulez rester sur la même teinte, surtout, on ne recolore jamais toute la chevelure, sur peine de saturer les longueurs de pigments et les charbonner. On ne fait que les racines, puis les 5 dernières minutes, on émulsionne et on malaxe comme un shampoing. Et enfin, pour prolonger la couleur, on utilise un shampoing doux, sans sulfate, moins décapant, et on zappe les produits de coiffage alcoolisés qui, eux, dissolvent la couleur.
Et on rince au froid.
Et on se... Oui, c'est... si on peut le faire, c'est bien.
Pour refermer les écailles,
voilà,
et
toujours
éviter que la coloration...
Dernier rinçage à l'eau froide.
D'accord. Donc tout en rousse.
Tout en rousse, cette année.
Cette année, tout en rousse. Ou rouge.
Ou rouge.
Ou rouge. Ça va encore, non. Le rouge.
Oui.
Non, parce que Coco va me détester.
C'est moi, ça.
Ouais. Donc, on va passer une petite musique, je crois. Oui, Angel.
Oui, alors je vais vous passer Sign of the Time de Prince, sorti en 1987.
Ben, on écoute ça. Puis après, on viendra à l'interview.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Thank you.
Alors, pour ceux qui ont rattrapé la deuxième heure, nous sommes en train de parler de mode et des femmes par rapport au domaine de la mode, où les femmes les plus célèbres sont Rose Bertin, Jeanne Paquin, Jeanne Lanvin, Malène Voinet, Coco Chanel, Elisa Schiaparelli, Madame Gray et Vivienne Westwood. Donc des femmes qui ont, on va dire, participé à la création de la mode. On peut dire ça comme ça.
Voilà.
Et nous avons à nos côtés Marianne, qui est styliste.
Oui.
On peut dire ça aussi. Et tu fais des vêtements, donc ça peut être de la robe de mariée, robe d'époque et costume de scène.
Voilà, exactement.
Voilà. Donc tu nous disais que c'était ta passion, enfin, et à la rigueur c'était quelque chose de naturel en fait chez toi.
Oui, 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 c'est assez instinctif en fait. Je me rends compte que
ça a toujours fait partie de ta vie en fait.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui.
Donc ça te semblait naturel, même si on peut dire que c'est une passion au final, puisque si ça semble naturel, c'est que
oui, mais en fait tu vis couture 24 heures sur 24.
Ouais, ouais, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Quand moi je danse pas tout le temps, mon corps il est en manque. C'est dit va danser. Bouge. Mais c'est vrai. Ouais, bouge ton cœur. Non, mais c'est vrai que quand t'as une passion, des fois tout ça te semble tellement naturel.
Oui, puis on y pense tout le temps dans un petit coin de la tête.
Ouais, c'est toujours là.
Il y a toujours un projet derrière, ouais, une création, chose en même temps, mais on est dedans.
Oui, voilà, t'es exactement comme moi. T'es en train de faire un truc, tu penses à autre chose. Donc du coup, ta passion remonte du coup à l'enfance, on peut dire.
Mm-hmm. Ouais. Avec les vêtements de poupée.
Ah ouais. Moi, c'était pas mon truc. Hein. Moi, je faisais un petit peu de crochet ou du tricot, mais il faisait tout, quoi. Parce que ma grand-mère, c'est ce que faisaient ma grand-mère et ma mère aussi, mais sinon après, voilà.
C'est souvent comme ça, c'est une transmission familiale.
Oui, oui. Malgré que mes grands-parents étant plutôt en campagne, elles faisaient leur robe elles-mêmes.
Mm-hmm. Oui.
Donc,
Mais après, ça dépend des affinités qu'on peut avoir.
J'aurai pas la patience, du coup. Dans cette,
voilà, c'est ça.
Je pense aussi.
Patience, oui, c'est vrai. Ouais.
Et donc, par rapport, est-ce que quand tu as décidé de reprendre tes études pour passer, pour devenir styliste, je cherche mon mot, quelle impression t'as eue de l'histoire, enfin de des femmes par rapport, est-ce que t'as eu l'impression de trouver facilement ta place? Est-ce que tu as l'impression que parce que tu étais une femme, il y avait plus de difficultés?
Au niveau du travail en lui-même, non. Parce que je fais beaucoup de travail pour des gens qui sont proches géographiquement.
Donc ça aide?
Ça aide. Et puis, c'est un métier de contact, un métier où on parle avec les gens facilement. Donc je pense que c'est peut-être aussi un aspect entre guillemets féminin, une sensibilité qu'on a peut-être plus facilement. Et puis il y a un rapport aussi à la personne. Enfin, je dirais pas comme un médecin, mais il y a un rapport avec le corps aussi qui est peut-être plus facile pour les clientes, je pense aussi.
Sûrement, ouais.
Et puis bon, moi je considère pas que ce soit un métier féminin en soi. C'est juste une des traditions, des habitudes qui veulent ça. Mm-hmm. Il y a des femmes, des hommes aussi qui savent coudre. Ça, il y a pas de souci. J'en connais qui se débrouillent très très bien. Si ce n'est qu'on en parle moins. C'est je pense que c'est hérité aussi de la bonne ménagère qui sait.
Oui, voilà, qui sait coudre.
Coudre, ravauder et repasser.
Oui. Ouais, voilà. Mais du coup, quand les gens, enfin, peut-être principalement les hommes viennent te voir et te qualifient de couturière ou de styliste?
Alors, les hommes viennent essentiellement pour faire un ourlet, recoudre un bouton. Après oui, c'est en tant que couturière, parce que je mets pas en avant ma formation de stylisme, je l'utilise dans mes créations, mais c'est vrai que je fais essentiellement un travail de couture. Je me considère plus comme une technicienne que comme une styliste. Après, je ne cherche pas non plus à créer un style qui me soit personnel, même si au niveau de création personnelle que j'ai pu faire, je pense avoir un univers un peu particulier, un peu marqué. Mais j'essaie surtout de m'adapter à ce que demandent les gens. C'est ça le principal dans mon travail de stylisme, c'est d'être capable de m'adapter à ce qu'ils recherchent. Voilà.
Donc en fait, c'est purement c'est purement les maisons de couture en fait qui supposent créer la mode au final.
Oui, alors il y a eu une création qui venait d'en haut, enfin des maisons de couture qui imposaient un nouveau style, de nouvelles façons de s'habiller. Et puis il y a eu un retour aussi, un mélange de maisons de couture qui se sont inspirées de ce qui se faisait dans la rue aussi.
Ouais.
C'est une sorte d'échange qui s'est fait, quelque chose qui était assez aristocratique, qui descendait dans la rue, les petites couturières. Pour leurs clientes, imiter le tailleur de chez Dior, la dernière robe de Saint-Laurent, mais réinterprétée pour une robe de soirée. Voilà, et puis les maisons de couture qui ont repris aussi des vêtements de la rue, comme l'influence du vêtement de sport, par exemple, qui a été aussi réintégré dans les maisons de haute couture.
Oui. En fait, c'était donc avant, les femmes imitaient
elles s'en servaient comme modèle. Ça fait rêver.
C'est clair.
C'est normal, ça fait rêver. Et puis les modèles haute couture sont pas à la portée de tout le monde.
Non, encore à l'heure actuelle.
Donc on demandait à sa couturière, sa petite couturière de quartier, de réaliser une robe dans le style.
La petite robe noire ou des trucs comme ça, quoi.
La fameuse petite robe noire, indispensable.
Ou le drapé.
Le drapé, une chose facile.
Oui, Madame Gray, c'est elle qui a inventé le drapé.
C'est très particulier.
Il faut le savoir le faire, quoi. Mais j'ai trouvé ça. J'ai déjà vu une robe comme ça. J'ai trouvé ça super beau.
Très, très joli. C'est vraiment pour de la robe de cérémonie, de la robe. Le drapé au quotidien, c'est
compliqué.
C'est compliqué, c'est fragile, parce que ce sont des très belles matières. Donc voilà, c'est plus réservé à du vêtement
haute gamme. Mais les maisons de haute couture, c'était principalement des robes de soirée pour l'aristocratie, ou c'était vraiment
Alors la haute couture, en fait, c'est surtout une synonyme de qualité. Voilà, de haute qualité, d'un travail vraiment sur mesure, de pièces uniques. Hein, les robes de haute couture qu'on voit sur les podiums sont des modèles qui seront répliqués pour des clientes, mais quelquefois une fois, deux fois. Bon, ils évitent en général se retrouvent avec la même robe, ce qui peut être
parce qu'il y a des robes quand même, on ne peut pas les porter. Quand tu vois des défilés, il y a
des choses qui sont absolument importables, c'est vrai, qui relèvent plus là du travail artistique en des possibilités créatrices d'un designer, mais qui ne sont pas portables, c'est vrai.
Ouais, parce que peut-être qu'à l'époque, il y a très longtemps, la bourgeoisie, on va dire, au temps des rois,
c'était portable.
Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu vois certaines robes passer, tu te dis, je me vois pas avec ça dans la rue, hein.
Non, c'est pour montrer leur savoir-faire.
D'accord.
Il y a très peu de robes en défilé qui vont être réalisées vraiment après.
Ils ont toujours leur collection.
Oui, alors ils déclinent des collections qui sont plus abordables, portables, effectivement, mais qui restent quand même du très haut de gamme.
Et du coup, les maisons de couture se sont ouvertes à ce, je vais pas dire bas de gamme, mais presque.
Alors, il y a eu des maisons de couture comme Saint-Laurent, je pense, qui ont réalisé des collections prêt-à-porter, qui ont commencé à réaliser des choses en prêt-à-porter. Maintenant, on en trouve aussi chez Dior, chez Chanel, etc., qui sont inspirées des défilés, mais dans des versions plus abordables, entre guillemets.
Oh, oui,
ça reste quand même la marque que l'on paye essentiellement, puis un savoir-faire. Ça se voit essentiellement dans la mode masculine, par exemple, des choses qui sont des marques, puisque là on va plus parler de marques que de grands couturiers, qui sont des marques de prestige à destination du public masculin.
Et pourquoi que le public masculin? Bonne question.
Bonne question.
Donc si on va avoir une petite mini-jupe, on va pas...
Si, on peut avoir une mini-jupe de
grand couturier.
De grand couturier, bien sûr.
Mais généralement, c'est pas cousu par eux.
Ah non.
Voilà.
Non.
C'est cousu par les couturières.
Oui, et puis c'est du prêt-à-porter, donc c'est fabriqué dans les mêmes conditions, quasiment, que ce qu'on peut trouver dans les grandes marques de mode.
Oui, il faut pas que ce soit du made in China, quoi.
Ça sera peut-être pas du made in China, mais c'est pas loin. Ils ont des ateliers un peu particuliers, mais qui ne sont pas obligatoirement en France. C'est Agnès B, par contre, qui travaille avec des ateliers français.
D'accord.
Par exemple. Puis il y a des marques aussi qui sont revenues travailler en France, des marques qui sont plus mainstream, mais qui travaillent en France.
Il y a un savoir-faire français.
Oui, il y a un savoir-faire français dans le textile.
Parce que la France est quand même... Paris est comme la capitale de la mode, quand même.
Alors, c'est réputé pour la qualité de son travail, de ses artisans aussi, qui travaillent dans l'artisan de luxe, comme le plumassier, le brodeur, le fabricant de fleurs en tissu, etc. Ce sont vraiment des spécificités françaises.
Les dentelles de Calais et tout ça.
Voilà, qui travaillent pour les maisons de haute couture.
Nous, on n'en portera pas, qu'on nous les prête pour faire un défilé. Mais... Et du coup, c'est principalement des femmes du coup qui viennent te voir quand toi c'est les hommes en fait, comme tu dis, ils sont plus dans le petit truc à rapiécer
ou
ils sont pas du tout à vouloir.
Je pense qu'ils sont moins exigeants, moins demandeurs de nouveautés.
Ils n'ont pas envie de se dire, je vais me faire un costume sur mesure ou un pantalon ou non.
Alors, le vêtement masculin demande une formation particulière.
D'accord.
Le tailleur pour homme. Une formation que moi, je n'ai pas.
D'accord. En fait, tu dois avoir... Tu as plusieurs formations, alors.
Oui. Il y a différentes corps de métier, bien sûr. Oui.
Et donc, du coup, tu dois avoir une formation pour les vêtements féminins.
Oui.
Une formation pour les vêtements masculins.
Oui, le tailleur pour homme, pour faire un costume d'homme, c'est une technique particulière. C'est un métier
à
part entière. Oui. On en trouve.
Oui, mais de toute façon, on trouve des tailleurs.
Des tailleurs pour homme. Oui, on peut se faire faire un costume sur mesure.
Oui, pour un mariage ou...
Parce qu'on a envie d'avoir un très beau costume.
Et du coup, il y a des techniques aussi, je suppose, différentes. Quand tu veux faire des costumes d'époque ou de scène et des robes de mariée,
Ce sont des techniques puis des matériaux différents. Il y a des contraintes, par exemple, pour le costume de scène, il y a des particularités pour le costume de scène. Pour une robe de mariée, il y a des matières particulière à travailler, de la dentelle, de la soie, des choses comme ça. Pour le costume historique, il y a des choses, des impératifs aussi. Mm-hmm. Oui, 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 tout ce qui se voit doit être conforme aux techniques
de l'époque.
Oui, le plus possible. Oui, oui, oui. De même que les matières, si on peut se rapprocher le plus possible de la matière, qui existait à l'époque. Des motifs également.
Ouais.
Pas faire d'impair historique.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de broderie dans les...
La broderie, oui.
Ouais, dans le...
De robes brodées, perlées. Oui, 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 il y a beaucoup de tissus qui sont ce qu'on appelle anobli, en fait, l'ennoblissement des tissus.
D'accord. Le tissu était plus dur à l'époque ?
Beaucoup plus solide, oui. Les tissus en soie, par exemple, des robes étaient beaucoup plus solides. En étudiant des robes d'époque, on trouve les tissus qui sont coupés à cru, c'est-à-dire sans ourlets, par exemple, pour faire et qui ne bougent pas. Maintenant, vous découpez un tissu de soie pour faire à cru, il va s'effilocher très vite.
D'accord.
Les qualités sont plus les mêmes, ça c'est sûr.
Ça s'est appauvri, quoi.
Oui.
Donc du coup, à l'époque, tu pouvais tirer sur une robe, ça s'arrachait pas comme ça.
C'était très solide.
C'est bien ça. Non,
ouais, ouais, c'était
parce
bien.
Que maintenant, tu fais les trois lavages, t'as plus rien.
Non, les robes étaient faites pour durer. Enfin, les robes.
Les robes d'époque.
Les robes, oui. Enfin, ce qu'il y a, c'est que souvent, ils avaient inventé le recyclage avant l'heure. Une robe était portée, par exemple, à la cour une fois pour une cérémonie, et puis était démontée et le tissu était réutilisé pour faire autre chose.
D'accord. Ah,
oui. Les robes étaient revendues dans des friperies en seconde main.
Bah comme quoi l'époque,
on ne gaspillait pas.
D'accord, donc en fait tu réutilisais le tissu.
Oui, elles étaient démontées et le tissu réutilisé pour autre chose.
Oui, c'est vrai que ça se faisait beaucoup. Enfin, moi, ma grand-mère, pour se faire des robes, elle utilisait le tissu d'un manteau parce que ça devait coûter cher à l'époque, je suppose, le tissu. C'était pas donné.
Très cher, très cher, oui. Parce que ce sont des tissus qu'on fait venir de loin, même si l'industrie drapière, c'est les soieries, par exemple, de Lyon, des choses comme ça, se sont développées grâce à la cour, en fait, aux besoins ostentatoires de la cour, qui avait besoin de tissus riches. Donc, on a développé l'industrie textile en partie grâce à ça.
D'accord. Et oui, parce qu'à la cour, en fait, il fallait pas la même tenue chaque soir, je suppose. Quasi.
C'était plutôt malvenu. Il y avait la tenue de jour et la tenue de
soirée,
de cérémonie. Pour les cérémonies importantes, on faisait faire un vêtement.
Et à chaque fois, tu devais pas avoir la même. Quasi.
C'était mieux. Fallait montrer qu'on était riche.
Voilà,
oui, c'est un signe de richesse, quoi.
Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, d'ailleurs.
Oui. Ça devrait réexister. Non, mais c'est vrai. Du coup, en fait, c'était un peu l'apogée de tout ce qui était les tailleurs, les couturiers, les stylistes à cette époque. Du coup, s'il fallait toujours.
Il y avait beaucoup de travail, effectivement. Bon, les ateliers de couture étaient capables de réaliser une robe en deux jours. Ils étaient très nombreux à travailler dessus. La robe était cousue sur la personne après ou épinglée et on défaisait la robe. Enfin, voilà, c'était. C'est pas du prêt-à-porter, c'est vraiment une robe de cour est faite pour une personne en particulier.
Ouais. Ouais. Donc en fait, toutes les robes étaient uniques, si on peut dire ça, part.
Oui. Ces dames n'aimaient pas être habillées comme
pareil.
Les autres. Ouais. Il y avait beaucoup de rivalité, bien sûr.
Oui, maintenant, c'est tout le monde a le même. Mais après, les stylistes, c'était plus pour montrer leur savoir-faire, du coup, si j'ai bien compris, et puis vendre leur...
Dans la couture moderne, bien sûr, oui. Les maisons de haute couture, 20e siècle, fin 19e, 20e siècle, puisque c'est la fin 19e que sont apparues les maisons de couture. C'est une sorte de vitrine d'un savoir-faire de la maison. Les robes servent de publicité, en fait, pour la maison, pour des produits dérivés, beaucoup maintenant, les sacs, les parfums, les maquillages, etc. On crée un univers qui fait rêver, en fait. Voilà, c'est ça.
Surtout la femme.
Surtout la femme, parce qu'elle a besoin de rêver.
Ouais, de se maquiller, de se pouponner, d'être avec des belles robes. Mais du coup, au jour d'aujourd'hui, on réutilise plus les robes. Enfin, du coup, le tissu des robes.
Non, non.
Voilà. C'est bien dommage.
Il y a des entreprises maintenant, enfin des créateurs qui travaillent sur ce qu'on appelle l'upcycling, c'est-à-dire en fait le recyclage des vêtements, qui travaillent aussi avec des ateliers d'insertion par exemple. Il y a des marques qui travaillent sur cet aspect-là de la mode. C'est plus jetable, c'est réutilisable, c'est bien.
Bah comme à l'époque.
Oui,
autant voilà. Rois, au final.
Oui, on ne jette pas.
Parce que du coup, les tissus réutilisés, ils ont dû faire des multitudes de robes avec ça.
Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas de traces, par exemple, des garde-robes de la noblesse, parce qu'une partie a été
réutilisée
à la Révolution, mais aussi. Surtout que c'était réutilisé régulièrement. Donc, on n'a pas de... À part sur les portraits, qui servent de base...
Pour voir les robes.
Pour voir, et puis quelques documents écrits. On peut trouver.
Et de savoir qu'en fait les tissus étaient réutilisés. Donc il fallait un sacré savoir-faire pour découdre et savoir où réutiliser toutes les parties.
C'est le métier de la couture, faire et défaire.
C'est fascinant. C'est fascinant. On va passer à la rubrique cuisine. Aujourd'hui, je vais vous pas. Donc, la rubrique des cuisines, je vais. Alors, vu que je suis malade, j'ai été sur Internet et je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler des petites soupes remèdes, on va dire, et qui permettent d'aller mieux.
De se requinquer.
Ouais, voilà. Alors, j'essaye de revenir à mon petit truc, mais il veut pas se télécharger. Ah, bah voilà. Donc, du coup, je vous ai identifié. 4 soupes. Donc la soupe anti-fatigue, la soupe anti-grismine, la soupe anti-rhume, qui est d'actualité, et la soupe anti-tout.
D'accord.
Donc la soupe anti-fatigue. Alors d'après vous, laquelle ? Quel ingrédient ? Donc c'est la soupe d'ortie.
Ah bon ?
Ouais. Et la soupe antifatigue par excellence. L'ortie augmente le tonus et booste les défenses immunitaires de l'organisme pour mieux lutter contre les agressions extérieures. En outre, elle est écolo, car dans l'ortie, tout est comestible. Les racines, la tige, les feuilles, les fleurs, qui ont toutes des vertus santé. Faites revenir un oignon, de l'ail dans une marmite avant d'arroser d'un bouillon de volaille, puis faites-y bouillir les feuilles d'ortie, ajoutez-y une pomme de terre cuite avant de mixer le tout. Ajoutez une touche de crème fraîche pour la gourmandise.
Waouh.
Voilà. Oui. Donc l'ortie anti-fatigue. Soupe anti-grismine. Quel ingrédient d'après vous ?
La carotte.
Exactement. La carotte est un allié pour le teint. Quelle que soit la période de l'année, elle donne bonne mine. Donc autant en hiver, en été, en automne, au printemps. Faites cuire les carottes coupées en rondelles dans un bouillon de volaille. Ajoutez du sel, du poivre, du persil pour la vitamine C. Puis passez au mixeur avec un minimum d'eau pour obtenir cet aspect velouté. Quitte à en rajouter si la texture est trop épaisse, servez avec de la crème et des croûtons à l'ail.
T'as pas l'air mauvais. Hein.
Non. La soupe anti-rhume. Alors, le bouillon de poulet est excellent contre le rhume. Il purifie et décongestionne les voies respiratoires. Faites revenir dans une grosse marmite des morceaux de blanc de poulet ou de carcasse de poulet. Ajoutez de l'eau et faites cuire le tout au feu doux avec des carottes, des poireaux, un oignon, des branches de céleri. Filtrez le tout à l'aide d'une passoire tapissée de sopalin pour retenir au maximum les résidus. Mettez le bouillon dans des récipients hermétique. Consommez le poulet et les légumes froids ou chauds à part. La soupe à l'oignon et à l'ail sont d'ailleurs d'excellents remèdes contre la sinusite, car ils ont un effet antibactérien.
Oui, j'en ai fait il n'y a pas longtemps de la soupe à l'ail.
Ah oui ?
Oui.
C'est bon ?
C'est très bon.
Mmh. Bah comme quoi. Soupe anti-tout. Alors d'abord vous.
Je ne sais pas.
Le thym.
Du thym.
Ouais. Le thym est un excellent anti-tussif. Il calme les quintes de toux sèches les plus récalcitrantes. Souvent utilisé en inhalation, on peut également le servir en soupe. Faites revenir de l'ail et l'oignon et de l'oignon dans une marmite avec du beurre. Ajoutez un bouillon de volaille, toujours un bouillon de volaille. Donc des pommes de terre épluchées avec un bouquet de thym entier. Réduisez le feu, laissez infuser pendant 20 à 30 minutes. Filtrez la soupe, mixez, servez avec des petits croûtons de pain revenus à la poêle et frottez à l'ail.
Mm-hmm.
Voilà. D'accord. Donc vous savez tout maintenant. Soupe anti-fatigue, ortie. Soupe anti-grismine, la carotte. Soupe anti-rhume, le bouillon de poulet ou alors pour les sinusites, soupe à l'oignon ou soupe à l'ail. Et pour la toux, le thym.
D'accord.
Voilà, comme ça vous êtes parés.
Oui, parés pour l'hiver.
Ouais, voilà. Ben, on va passer du coup une petite musique, Angèle.
Oui, alors cette fois je vais vous passer Beautiful de Snoop Dogg et Pharrell Williams, sorti en 2002. Pardon.
Et on écoute.
Allez.
Avant de revenir, notre petite invitée.
You do it, have a glass, let me put you in the mood. It little cupid, looking like a student, long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom to sister the cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Get her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these niggas when they ask who do this, but everybody know who girl that you with. My baby boo shit, I get foolish. Smack a nigga that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow draw and keep the flow moving. In a 6'4", me and baby boo cruising. Body wagging, interior blueing. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing, and we gon' be together until your mom's moving. In. You got my pictures on the wall in your room, and girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. You's a college girl, but that'll stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you. And you don't ask why I roll with a crew. When twist up my fingers and wear dark blue. On the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. Cause baby girl, you're so beautiful.
Beautiful. I just want you to know. to know that you are really special. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I.
Yeah. Oh, yeah, there's something about you. Oh,
alors, Marianne, pour une femme qui voudrait devenir styliste, couturière, qu'est-ce que tu leur conseillerais ?
D'être passionnée, déjà, dans un premier temps, c'est indispensable. Parce que c'est un métier qui n'est pas... Ce sont des métiers, dans les métiers de la mode, qui ne sont pas faciles. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.
Oui. Oui.
La formation de stylisme, par exemple, peut mener à des métiers très différents. On ne finit pas tous stylistes dans une maison de haute couture. Il y a du travail pour les stylistes dans des branches comme les journaux, par exemple. Mm-hmm. Être styliste dans un styliste conseil dans un magazine.
Ouais.
Ça peut être styliste pour une marque de vêtements, de sport, de vêtements pour enfants.
Mm-hmm.
Ça peut être... styliste pour plein de choses, en fait. Il y a plein d'entreprises qui ont besoin aussi de stylisme.
Mmh.
Ouais. Et puis les métiers de la couture sont des métiers qui sont... Je parle là de l'aspect technique, hein,
ouais.
Vraiment du couturier ou couturière, qui sont des métiers difficiles. L'apprentissage demande... d'être passionnée, d'être patiente, persévérante, et puis d'accepter aussi de travailler en entreprise, parce mm-hmm. que essentiellement les formations couturières sont destinées à l'industrie textile,
ouais.
Même si elle n'est pas majoritaire dans la région,
contre, ouais,
malheureusement.
Ouais.
Avant c'était le cas,
majoritaire,
mais
ouais.
Plus maintenant. Voilà, donc c'est beaucoup de travail dans la retouche, des choses comme ça, des travaux qui ne sont pas nécessairement des métiers qui font rêver.
Il faut savoir tout accepter.
Et il faut accepter et puis essayer de trouver sa place après.
Mm-hmm.
Ouais.
Ça, c'est ouais. Persévérance, motivation. Ouais.
Voilà. Mm-hmm.
Ça, c'est bien. On va passer à la rubrique confiance en soi, Angèle.
Love, exciting and new. Come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you.
Donc notre petite rubrique confiance en soi, comme on disait, il faut de la motivation, de la confiance en soi. Quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi ? Avez-vous une idée, mesdames ?
Non.
Pas du tout ? Pour nous, ça reste, on se dit, c'est pareil.
Bah oui.
Ben non. Et non. Alors j'aimerais vous parler d'un sujet qui divise même les experts en développement personnel, de la différenciation entre estime de soi et confiance en soi. Je les ai confondus pendant longtemps et je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas vraiment préciser en quoi ces concepts sont différents. Donc on va lire. Donc pour déterminer la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, c'est essentiel.
Oui.
Et oui. Les idées reçues sur l'estime de soi et la confiance en soi, avant tout, il faut peut-être tordre le cou aux idées reçues sur l'estime de soi et la confiance en soi. Les avis se divisent en trois grandes catégories. Ah. Allons-y. Ceux qui associent allègrement l'un et l'autre concept, de nombreuses personnes confondent confiance en soi et estime de soi. Pourquoi ? Parce que sur de nombreux sites de développement personnel, on encourage à acquérir l'un ou l'autre sans préciser qu'ils sont différents. Ceux qui pensent que l'estime de soi est une vue de l'esprit et que la confiance seule répond à tout. Des auteurs intéressants tels que Anne-Louise Némès affirment carrément que l'estime de soi n'existe pas en elle-même. Mais en fait, tout porte à croire que la confiance et l'estime de soi sont tous deux essentiels et qu'on ne peut posséder l'un sans l'autre. D'où l'importance de bien les différencier au départ. Ceux qui pensent que tout en étant différentes, les deux notions vont de pair. Et là encore, les effets montrent que ce n'est pas toujours le cas. Plusieurs personnes de ma connaissance sont pleines de confiance, mais ont une piètre estime d'elles-mêmes, et elles sont plus nombreuses que l'on le pense.
Ah ouais.
Eh ouais. Donc je vais vite fait terminer parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. L'estime de soi, donc en termes simples, la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi réside dans le ressenti et l'action. L'estime de soi s'apparente davantage à un sentiment, alors que la confiance en soi implique plus que cela. Elle suppose des actions. L'estime de soi se construit tôt, dès l'enfance. On la définit habituellement comme la perspective et l'auto-évaluation qu'on a de ses points forts et de ses points faibles quand on les compare à nos valeurs. Vous avez noté l'idée des valeurs, elle est capitale parce que le développement de l'estime de soi s'appuie sur des valeurs morales qu'on a reçues. On dit parfois, et à raison, que l'estime de soi consiste à se représenter comment on se considère valable. Cette sensation de se construire dans la famille. Vous avez reçu des références et des paroles encourageantes et bienveillantes et de solides références morales. Vous avez presque toujours une estime de vous-même positive. Des expressions telles que « tu es unique, tu es un bon garçon, je suis fier de toi et je t'aime » contribuent à améliorer l'estime de soi chez les jeunes.
Oui.
La confiance en soi est tout autre chose. L'auteur Jean Carnot a proposé une définition qui me semble être précise et complète. Il dit de cette expression une évaluation réaliste et ponctuelle qu'on a les ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Donc je vais m'arrêter là puisque le compteur y tourne. On a tellement dit de choses que maintenant on sait plus finir nos petits textes, mais c'est pas grave. Donc écoutez, je vous dis à bientôt.
Oui, à bientôt.
Pour de nouvelles émissions. Ouais. Merci à Marianne d'être venue.
Merci.
C'était très sympathique d'apprendre beaucoup de choses sur la mode. C'était vraiment super.
Ouais.
Coco.
Tout à fait.
Puis on vous dit à bientôt.
À bientôt.